Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Si vous avez envie de délaisser vos portables, si vous êtes maintenant autorisé à les délaisser pour participer à notre débat. Merci d'abord d'être venus si nombreux à ce débat donc organisé par l'AFNOR et dont l'objet est de faire le point sur les travaux de l'AFNOR sur la silver economy. Donc j'ai juste présenté, si vous me permettez, les deux intervenants. J'ai donc à ma droite, mais vu de la salle, vous la voyez à ma gauche, bien entendu, Valérie Bernat, qui est responsable du développement à l'AFNOR dans tout le secteur santé et action sociale, et votre serviteur, qui est par ailleurs professeur à la Sorbonne et président du groupe de réflexion AFNOR sur la silver economy. Donc, dans cette présentation, nous souhaitons d'abord vous mettre en évidence un certain nombre d'éléments des travaux que nous avons pu conduire. Et bien entendu, après, le débat sera ouvert à qui souhaitera prendre la parole. Donc, dans un premier temps, je vais demander à Valérie Bernat de vous rappeler simplement ce qu'est la normalisation et l'importance de la normalisation. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer la raison pour laquelle donc l'AFNOR a décidé de mettre en place un groupe de réflexion, quels sont les objectifs du groupe, quel est le bilan du groupe à cette date du 4 décembre 2014. Et je vous présenterai donc la présentation des résultats de l'enquête nationale que le groupe Silver Economy de l'AFNOR a réalisé ces derniers mois. Et ensuite, je repasserai la parole à Valérie Bernat pour qu'elle nous explique l'importance du travail de l'AFNOR à l'échelon international, tant au niveau européen qu'international, pour permettre justement, je dirais, à la qualité France d'être plus présente sur les métiers de la silver economy en Europe et dans le monde. Et ensuite, donc, vous aurez la parole. Alors, simplement, je vous précise que nous avons donc préparé un PowerPoint qui est effectivement peut-être un petit peu chargé. Donc, il y a des transparents que nous passerons un peu vite. Mais au cours du débat, il sera toujours possible de représenter un transparent. Et de toute façon, il y a beaucoup d'éléments qui, à partir de ce soir, seront sur le site de l'AFNOR. Je vous le repréciserai tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, chère Valérie Bernat, à vous de nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle la normalisation.
Merci, Monsieur Dumont. La normalisation. Alors, la normalisation, peu de monde la connaît, en fait. C'est un mot très compliqué, on a toujours l'impression normalisation, réglementation, normalisation volontaire, normalisation référentielle privée. La normalisation telle qu'on l'entend au sens association française de normalisation, c'est bien les normes volontaires. Et je ne resterai que là-dessus. Donc je vais vous repréciser les choses. AFNOR, association française de normalisation. Elle est constituée de 4 filières. Donc, 4 grands domaines de compétences, l'élaboration des normes, donc ça c'est la normalisation, la partie édition, la partie formation et enfin la partie évaluation et certification. AFNOR normalisation, de par le décret, est rendu en effet une mission et diffusion de normes reconnues d'intérêt général. Donc ça c'est un point extrêmement important. Décret de 2009. La normalisation, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on la trouve? Partout autour de vous. La normalisation est tous les domaines. Ça va du secteur de l'eau au secteur de l'énergie, en passant par le transport, en passant par la santé, l'action sociale, la télécommunication, l'informatique et autres. Quelques exemples, juste pour vous dire à quel point la normalisation vous entoure. La feuille A4. Si aujourd'hui il existe des imprimantes, s'il existe des scanners, c'est parce qu'un jour, au niveau international, il y a une norme ISO, qui est apparue, donc c'est la NFEN ISO 216, pour être précise, et qui a dit, ben voilà, le format A4 sera de telle taille. Et derrière, on peut se développer des outils utilisant ce format-là, au niveau international. Donc la normalisation, c'est aussi ça, c'est permettre d'harmoniser des règles du jeu pour développer derrière des innovations, et ça au niveau mondial. Mais on retrouve les normes dans le management de la qualité, Vous les retrouvez dans le système métrique. On ne parle plus du pouce d'un côté, du pied de l'autre, du mètre et tutti quanti. On arrive ici à harmoniser quand même le système métrique, les casques, les écouteurs associés aux baladeurs, le son également. Les cartes de transactions financières, si vous avez tant de facilité à partir n'importe où dans le monde et utiliser votre carte, c'est parce qu'elle est normalisée partout dans le monde. Et l'interopérabilité, si n'importe quel conteneur peut partir sur n'importe quel bateau, eh bien c'est parce que c'est normalisé. Voilà, c'est quelques exemples de vie pratique pour vous montrer que les normes peuvent faciliter quelque part la vie de tous les jours. La norme, c'est quoi ? La norme, c'est un document de référence. Elle est réalisée par un secteur, pour un secteur. Elle est réalisée par vous et pour vous, et à votre demande. AFNOR n'est qu'une organisation qui permet de réunir l'ensemble des parties intéressées à un secteur pour vous permettre de répondre à ce besoin, mais tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est les consommateurs, c'est les entreprises, ce sont les ministères, les fédérations, les syndicats, etc., etc. C'est tous ensemble autour de table. Et ça, quelles que soient vos positions. Et le but, c'est de trouver le consensus pour réaliser la norme franco-française, voire porter votre consensus français au niveau européen ou international. Elle permet de faciliter, entre autres, les échanges commerciaux. Point important, elle est toujours d'application volontaire. Quand je dis ça, c'est que le règlement, lui, est d'application obligatoire. C'est ce que l'on appelle le droit dur. La norme, c'est des règles du jeu. Volontaire, défini par consensus entre les acteurs du marché. Et enfin, vous avez les standards référentiels privés qui, eux, sont réalisés par un petit groupe d'acteurs, voire par une entreprise parce qu'elle a un besoin en interne. Voilà, là, c'était vraiment pour vous expliquer où se situait la normalisation.
Voilà, donc, dans ce cadre-là, l'AFNOR s'est rendu compte de l'importance de la silver economy. Donc, on va rappeler simplement à travers une petite flèche, donc qui est liée à ce que j'appelle la gérontocroissance, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes âgées dans les prochaines décennies. Je vous rappelle que cette gérontocroissance, elle est liée à différents éléments. Le premier, c'est que les générations qui vont devenir âgées dans le futur correspondent à des périodes où le nombre de naissances a été plus élevé. Et donc le nombre de personnes âgées, 75 ans ou 78 ans après, est forcément plus important. Deuxièmement, la gérontocroissance est liée à l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées, phénomène que l'on n'avait absolument pas anticipé, hein, puisque jusque dans les années 70, on n'a pratiquement pas d'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Il a fallu attendre que la médecine se développe dans tout ce qui relève de la gérontologie, parce qu'elle avait fait suffisamment de progrès sur les générations plus jeunes pour qu'on voit l'émergence de l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées à partir des années 1970. Et puis il y a un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour simplifier, la France est redevenue un pays d'immigration continue à partir des années 1975, et ces immigrants, eux aussi, ils vont arriver à devenir âgés. Et donc, sous le résultat de ces trois facteurs, c'est cette augmentation qui est visualisée sur ce graphique. D'où l'importance de la cyber-économie, c'est-à-dire le fait que le nombre de citoyens, de consommateurs concernés par cette économie des cheveux gris est de plus en plus nombreux. Et cette importance a évidemment attiré les pouvoirs publics qui se sont rendus compte qu'il était nécessaire que la France développe une filière silvière économie. Et je ne vous rappelle pas donc les décisions politiques qui ont été prises ces dernières années dans ce but. Parallèlement, l'AFNOR a décidé de créer un groupe de réflexion après une validation de son comité de coordination et de pilotage de la normalisation, dans la mesure où l'AFNOR s'est rendu compte qu'il était nécessaire de réfléchir à la question de la normalisation sur tous les métiers de la silver economy, ce qui a conduit donc à la création de ce groupe. On peut peut-être passer au suivant, qui a été mis en place, et même au suivant. Alors, quel est l'objectif de ce groupe ? Eh bien, il consiste tout simplement à considérer d'abord que la question de la normalisation touche un nombre de secteurs considérables, hein, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des télécommunications, du bâtiment, des transports, des services à la personne, et donc que l'ensemble de ces secteurs se trouve face à des enjeux, face à la gérontocroissance, et en même temps, l'ensemble de ces secteurs représente une multiplicité d'acteurs. C'est la raison pour laquelle ce groupe a pour objectif donc d'établir une cartographie des travaux de normalisation existants ou en cours, parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs, pour eux-mêmes, ont déjà défini des normes, et qu'il faut essayer d'examiner si ces normes méritent d'être retenues en l'état, d'être généralisées, et donc de devenir valables pour l'ensemble d'un secteur ou l'ensemble de la silver economy. Et l'objectif de ce groupe de réflexion, c'est donc d'établir un programme de normalisation afin d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent se développer dans la silver economy, pour qu'elles puissent toucher de nouveaux marchés et en même temps pour aider aussi au transfert de technologies à l'intérieur des différentes branches de la silver economy. Alors ce groupe travaille depuis un an. Et quel est aujourd'hui le résultat de ces 12 mois de travail? C'est ce que vous voyez à travers ce transparent. Alors, premier élément, je commence par le bas du transparent. Ce groupe a réalisé 3 cartographies qui permettent de référencer les documents normatifs existants aujourd'hui. Bon, ces cartographies, je ne vais pas vous les montrer parce que ce serait trop long. En revanche, je vous précise que ces cartographies seront disponibles sur le site AFNOR à partir de janvier 2015 et qu'elles comprennent à peu près 800 normes. Donc c'est vous dire déjà l'importance des normes qui ont été mises en évidence par le travail des utilisateurs. Deuxième élément à gauche du graphique, c'est donc le souci de la présence internationale. C'est-à-dire qu'il y a en fait 2 solutions dans la silver economy. Soit ce sont les pays étrangers qui arrivent à imposer leurs normes, et à ce moment-là, nos entreprises françaises ne seront qu'obligées de suivre en quelque sorte, et nécessairement un petit peu en retard par rapport au souci de compétitivité, soit au contraire, nous arrivons à définir des normes qui s'exportent. Et ceci sera favorable à notre économie et à nos entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les différentes initiatives prises par le groupe, il y a eu la mise en place d'un groupe de travail franco-chinois, dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, la Chine est pratiquement, je dirais, le champion de la gérontocroissance, c'est-à-dire le pays qui va voir la plus forte augmentation du nombre de ces personnes âgées et que la Chine s'intéresse beaucoup à nos avancées, même si elles sont insuffisantes, en matière de silver economy. Troisième résultat du travail de ce groupe depuis un an, c'est ce que vous voyez en haut, c'est la réalisation du parcours de vie que je vais vous synthétiser dans le prochain transparent. Et enfin, ce groupe a réalisé une enquête nationale dont je vous livrerai un certain nombre de résultats. Donc, examinons d'abord ce troisième point que je viens d'annoncer, c'est-à-dire la réalisation du parcours de vie. L'objectif, là, a été d'examiner quels sont, je dirais, les différents paramètres qui entrent en compte dans le parcours de vie d'un senior, qu'il s'agisse de ceux liés à son environnement, son cadre bâti, les services autour de lui, les possibilités de mobilité dont il dispose. Deuxièmement, le réseau dont il dispose. On constate simplement à ce moment-là qu'elle a un contexte social et familial qui fait qu'elle est inscrite, la personne est inscrite dans un certain réseau. Mais il n'est pas sûr que ni ce cadre de vie, ni le réseau existant soient satisfaisants pour justement satisfaire l'ensemble des besoins de la personne en matière de déplacement, en matière d'alimentation, en matière de santé. Et donc il s'agit aussi d'examiner comment, dans ce parcours de vie, se placent à la fois les proches et les professionnels. Et dans le cadre de ce parcours de vie, eh bien, on a constaté effectivement qu'il y avait environ 800 normes déjà existantes, créées par les entreprises ou des institutions diverses qui s'inscrivent dans ce parcours de vie. Alors, au-delà de ce parcours de vie, nous avons voulu effectivement mieux comprendre quels étaient les besoins ressentis moins par les personnes âgées que par les futures personnes âgées. Donc l'idée, là, était donc de lancer une enquête nationale permettant d'éclairer les acteurs et d'éclairer aussi les marchés, bien entendu, sur ce qu'attendaient les futures personnes âgées. Et donc c'était une enquête dont l'objectif était plutôt de mobiliser des personnes de 55-59 ans environ. Et donc un questionnaire a été élaboré selon une méthodologie courante, sachant que, bien sûr, il y avait un certain nombre de contraintes, à commencer tout simplement par la contrainte de temps. Donc il s'agissait de lancer un questionnaire, mais de pouvoir en tirer des enseignements le plus vite possible. Alors ce questionnaire a été diffusé et a pu avoir une portée significative grâce à la collaboration de l'Institut national de la consommation, donc de l'INC, et d'autre part d'un certain nombre de membres du groupe de travail AFNOR qui ont bien voulu relayer sur le site ce questionnaire. Alors ce questionnaire, il a en gros été possible d'y répondre pendant en gros 3 mois et demi. C'était peut-être pas la période idéale, la période estivale, mais nous souhaitions pouvoir tirer et offrir des renseignements assez rapidement. Résultat, donc 1145 répondants, dont 200 aidants, hein, pas seulement donc des personnes âgées, et puis le traitement donc a été effectué. Alors concernant la méthodologie, donc bien sûr, c'était des questions fermées parce qu'on ne pouvait pas imposer des questions ouvertes, et surtout des questions ouvertes posent des problèmes de dépouillement beaucoup plus complexes, mais il s'agissait surtout à travers ce questionnaire de traiter l'ensemble des éléments de contexte de la personne âgée, qu'il s'agisse de l'alimentation, des nouvelles technologies, de la santé ou des services d'aide, par exemple. Et nous avons aussi essayé d'introduire quelques questions d'ordre personnel pour effectuer un certain nombre de tri par âge, par catégorie socio-professionnelle, comme vous le verrez. Alors la méthodologie consistait aussi à proposer à la personne de choisir un thème qu'elle souhaitait privilégier et sur lequel elle souhaitait apporter davantage de réponses. Mais bien entendu, le questionnaire ne pouvait être exhaustif, puisque s'il avait été trop long, le nombre de réponses aurait été moindre. Alors, la première réussite de ce questionnaire, que vous voyez à travers ces camemberts, me semble être d'abord dans la répartition par âge. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, nous visions les futures personnes âgées, en quelque sorte, et vous voyez que 42% des répondants sont dans la tranche d'âge de 56 à 65 ans, donc dans la tranche d'âge, pour dire les choses simplement, pour une partie d'entre eux, tout du moins, avant le passage à la retraite, même si la deuxième tranche d'âge que vous voyez, ce sont les personnes de 66 à 65 ans, qui représentent en gros 37% des répondants. Donc, par catégorie socio-professionnelle, il est vrai que les cadres représentent un pourcentage important et supérieur à la moyenne nationale, hein, près de 45%, mais néanmoins, il est quand même notable de constater que ce questionnaire était fait de telle façon qu'il a pu permettre aussi à des employés ou à des ouvriers de répondre dans des proportions qui ne sont quand même pas négligeables. Et donc, en cela, c'est quand même une satisfaction compte tenu de cette diversité socio-professionnelle. Alors, quels sont les soucis des répondants? Il est important de noter que, comme on pouvait le penser, les répondants ont un souci d'alimentation, ce que nous avons tous, d'ailleurs, tous les jours. Ils ont un souci de santé. Mais vous voyez qu'en troisième position, eh bien, nous voyons apparaître les technologies de l'information et de la communication, et ceci prouve effectivement une demande forte de seniors ou de retraités qui attachent de l'importance à l'utilisation de ces nouveaux outils. Bon, néanmoins, il faut être objectif, ce questionnaire a forcément des limites. Bon, j'en évoquerai trois. D'abord, le fait que, comme c'est un questionnaire en ligne, ça suppose des personnes qui aiment répondre à des questionnaires en ligne, cela va de soi. J'évoque la surreprésentation féminine. J'ose à peine le faire, parce que dès qu'on arrive dans des tranches d'âge assez élevées, comme vous le savez, il y a bien surreprésentation féminine, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de parité en matière d'espérance de vie, malheureusement, et que l'espérance de vie des hommes est en gros inférieure de 7 ans à celle des hommes. Bon, donc il ne faut pas forcément regretter la surreprésentation féminine de ce questionnaire. Et j'ai dit ce que je pensais de la répartition par catégorie socio-professionnelle. Alors, concernant les réponses, il n'est pas sûr que vous trouviez que les réponses soient spectaculaires. Néanmoins, il me semble important de noter que ce sont des réponses qui confortent des analyses que l'on pouvait présupposer et qui leur donnent un poids plus important, même si, nous verrons, il y a quand même quelques éléments dont on peut considérer qu'ils sont un petit peu surprenants. Bon, premier élément de réponse, c'est la question de la lisibilité et de l'information. Bon, clairement, les répondants nous disent les modes d'emploi, les étiquettes des médicaments, tout ceci manque de lisibilité, manque de clarté et ne permet pas de répondre clairement aux préoccupations des personnes. Donc il y a un souci d'une amélioration incontestable en la matière, alors que l'on constate, comme vous le savez, parfois une détérioration. Moi, je vois à travers mes différents déplacements, ne serait-ce qu'en France, mais à l'étranger aussi, que parfois il y a des panneaux d'information dans les gares qui sont plus petits que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans, ce qui est un petit peu étonnant par rapport à cette demande de lisibilité et de clarté. Alors, plus étonnant dans cette souci d'information, c'est ces demandes, à mon sens, plus étonnant, ces demandes de davantage d'informations, d'un numéro vert, d'un numéro unique. Puisque théoriquement, dans un certain nombre de territoires français aujourd'hui, soit dans le cas des départements, soit dans le cas de ce qu'on appelle les CLIC, il y a bien eu mise en place de systèmes d'information pour les personnes âgées. Manifestement, on n'est sans doute pas allé assez loin en la matière, et il y a ce souci d'un numéro unique où la personne âgée donc pourrait se renseigner sur toutes les questions qui la concernent. Deuxième grand ensemble de réponses qui ne surprendra pas, c'est celui de... On passe à l'autre. C'est celui de rester le plus possible chez soi. Donc, clairement, ce souci de rester le plus longtemps possible chez soi se traduit par des demandes qui s'expriment à travers les pourcentages que vous voyez et qui sont surtout des demandes de services, c'est-à-dire la nécessité que l'entretien du logement, que tout ce qui relève de la maintenance du logement puisse être assuré parce que la personne ne sera pas forcément à même de pouvoir le faire elle-même. Donc les travaux ménagers, le petit bricolage, le petit jardinage, la maintenance et l'entretien, l'assistance d'information Internet, etc. Donc vous voyez qu'il y a un besoin d'accompagnement, qu'il y a un besoin de service et d'adaptation du logement qui est tout à fait important. En même temps, on retrouve, et ça c'est quand même une bonne chose à mon sens, le souci de continuer à apprendre, et notamment en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment pour garder les bons contacts avec son réseau. Troisième élément, eh bien, est-ce qu'il y a une demande d'être confiné chez soi ou au contraire une demande de mobilité? Bon, la réponse est claire, c'est la demande de mobilité. Mais cette demande de mobilité, il faut la marier avec un souci de sécurité, sécurité dans les transports, et lorsqu'il s'agit de transport individuel, système sécurisé dans les transports par taxi. Donc, il reste quand même une appréhension par rapport aux outils de mobilité disponibles, et puis la nécessité, effectivement, d'améliorer l'accès aux transports en commun. Il suffit de regarder ce qu'il en est du métro parisien. Les progrès sont absolument évidents en la matière et nécessaires. L'autre élément très intéressant, c'est l'importance du sport, qui n'était quand même pas évident au départ. C'est-à-dire, on ne pouvait pas penser nécessairement au départ que les personnes âgées étaient suffisamment conscientes de l'importance pour, accompagner soi-même son propre vieillissement des activités sportives. Or, nous avons des réponses quand même extrêmement intéressantes, puisque finalement, il n'y a que 14% qui déclarent ne pas pratiquer de sport, que beaucoup de personnes nous disent « nous nous prenons en charge nous-mêmes », c'est-à-dire « nous faisons notre sport », même s'il y a un certain nombre de regrets. Quant aux 14% qui disent ne pas faire de sport, vous voyez qu'il y a aussi presque 13% qui disent « je n'ai pas la condition physique pour pratiquer un sport ». Donc là, on a deux pourcentages qui sont très proches l'un de l'autre. Donc, manifestement, il y a quand même sans doute des structures insuffisantes pour satisfaire cette demande en matière de sport, et sans doute faudrait-il ouvrir davantage nos équipements sportifs. Je pense notamment à ceux des collèges et des lycées, par exemple. Alors, concernant les activités culturelles, là aussi, nous avons une réponse qui est très intéressante, dans la mesure où vous voyez que nous avons plus de la moitié des répondants qui demandent davantage de courts séjours. Effectivement, bien avant ce questionnaire, depuis des années, je suis extrêmement surpris du nombre d'offres de séjours pour personnes âgées qui supposent au moins 15 jours, voire 3 semaines. Et on a vraiment l'impression que là, il n'y a pas une adaptation de l'offre à cette demande de court séjour et donc de déplacements touristiques, qu'il s'agisse de tourisme pur, j'irais, ou de tourisme pour rejoindre sa famille. Et en même temps, vous voyez aussi cette demande de destination proche, là aussi, qui est très intéressante, parce qu'il suffit d'ouvrir chaque jour ce que vous faites, vos boîtes mail, et on constate qu'on a toujours des publicités pour aller en Thaïlande ou en Argentine, mais très peu de publicités pour aller visiter le Vexin ou l'Orléanais. Voilà. Bon. Donc je pense que là, pour les professionnels du tourisme des seniors, il y a quand même peut-être des enseignements à tirer à travers la réponse à ce questionnaire. Alors, passons aux activités culturelles, où l'on voit un certain nombre d'attentes sur l'information, manifestement qui est considérée comme insuffisante en la matière. Mais dans cette partie du questionnaire, je trouve intéressant de noter que plus du tiers des répondants disent qu'ils sont prêts à donner leur temps et à s'investir. Et effectivement, nous connaissons tous sans doute des universités du troisième âge qui fonctionnent, pour certaines d'entre elles, largement grâce au bénévolat de personnes âgées. En matière donc de finances, nos amis banquiers ont des progrès à faire. Voilà comment je peux résumer ce qui est écrit sur ce questionnaire. Les services bancaires restent quand même assez incompréhensibles, si l'on en croit les répondants. Informations insuffisantes, frais bancaires pas assez transparents. Et donc, il y a là aussi des éléments d'idées importants. Alors, nous en arrivons aux structures d'accueil pour les personnes âgées, où, là, je dirais, les prestations qui sont attendues pour les personnes qui se trouveraient un jour en structure d'accueil correspondent un peu à ce que l'on pouvait imaginer. Donc, le souci d'abord de connaître les aides financières possibles, le souci d'obtenir des informations sur les structures existantes, le souci de l'intimité dans l'agencement de la structure d'accueil pour personnes âgées, le souci des soins. Manifestement, il y a une demande d'amélioration de nos structures d'accueil pour personnes âgées en répondant à ces différents éléments qui ont été privilégiés dans ce questionnaire. Alors, en conclusion de la présentation des résultats de cette enquête nationale, je voudrais peut-être présenter quatre points. Bon, le premier point, c'est donc la question du souci de pouvoir vivre le plus longtemps à domicile, ce qui suppose, bien entendu, une adaptation du logement dès que la personne a quelques incapacités qui supposent des aménagements dans les toilettes, des aménagements dans les chambres, des aménagements dans la cuisine. Deuxième point, une insuffisance de formation. Donc, il y a à peu près 10 000 structures, par exemple, d'accueil pour personnes âgées en France, et manifestement, dans ce dédale et dans la diversité qui existe dans ces différentes structures, eh bien, les répondants disent qu'ils ont du mal un petit peu à s'y retrouver. Donc, il y a une clarification, peut-être à travers une normalisation signalétique, d'ailleurs, qui serait nécessaire. Troisièmement, eh bien, c'est le souci de savoir ce qu'on mange et de savoir de bien suivre les prescriptions en matière de médicaments. Donc là, clairement, le souci d'un étiquetage beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible, le souci de mode d'emploi qui a été notamment souligné, bien sûr, en matière des technologies de l'information et de la communication, est tout à fait essentiel. Bon, on sait qu'en la matière, les lois françaises obligent à ce que les modes d'emploi soient en français, mais parfois ce sont de mauvaises traductions de modes d'emploi qui originellement étaient dans une langue étrangère, ce qui les rend peu lisibles. Enfin, il y a véritablement ce souci, comment on peut faire pour rester chez soi en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, il y a un plaidoyer que l'on comprend tout à fait, bien entendu, pour une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Bon, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, nos répondants nous disent, eh bien oui, elle dépend d'abord de nous, c'est-à-dire de notre capacité à bien nous nourrir, de notre capacité à pratiquer des activités sportives, notre capacité à bien dormir, notre capacité à entretenir notre mémoire. Mais pour tout cela, eh bien, nous avons quand même besoin d'aide, besoin de services disponibles. Et donc, nous réussirons à bien vieillir qu'à condition que nous ayons tout un ensemble d'environnements qui permettent de réaliser ce bien vieillir. Voilà, je vous ai résumé, peut-être un peu rapidement, mais nous pourrons y revenir au cours du débat, les principaux points de ce questionnaire. Je voulais vous préciser donc que les résultats détaillés de ce questionnaire seront donc disponibles sur le portail de l'AFNOR à partir de demain, ou même de ce soir, ou même de ce soir. Donc, vous voyez, vous avez le droit de vous coucher jusqu'à minuit pour pouvoir l'étudier tout en détail. Et donc, n'hésitez pas à faire part, bien entendu, aussi de vos observations par rapport aux résultats détaillés qui vont être présentés. Alors, comme je vous l'avais annoncé, j'ai demandé donc à Valérie Bernat de nous parler aussi de l'avenir et en particulier de sa dimension internationale.
Merci. Alors, pour répondre à la question, oui, la norme sur l'étiquetage, entre autres pharmaceutiques, existe. Elle existe et très clairement, elle est à revoir. mais pas que. Résidence pour personnes âgées, elle existe aussi. Service à la personne, elle existe également. Téléassistance, elle existe. Service de téléassistance, pour être très précise. Donc, il y a déjà un certain nombre de normes qui encadrent la silver economy, ou en tout cas, qui aident à la porter. Demain, où est-ce qu'on va? Comment on y va? D'abord, au niveau national. Définir un programme de normalisation. C'est vrai que l'enquête, le parcours de vie, l'ensemble des normes qui ont été listées permettre aux acteurs de voir un petit peu quelles sont les réponses, ou en tout cas les attentes, des consommateurs vis-à-vis de la normalisation, ou comment on peut aider le marché ou de nouveaux marchés, parce qu'il y a de nouveaux marchés qui émergent, heureusement, pour répondre à des nouveaux besoins, comment on peut les aider à se structurer. Ça a été le cas des services en téléassistance. Hein. Ce sont les téléassisteurs, le ministère, les consommateurs qui sont venus voir AFNOR en disant « ben voilà, on a un nouveau marché, celui de la téléassistance. Notre problématique, c'est qu'on voit très bien que parfois, il y a des abus. Il y a des abus et que du coup, ben, ce marché, il est... les personnes âgées, elles ont de moins en moins confiance aux services en téléassistance et on aimerait qu'elles aient à nouveau confiance. » Donc, est-ce qu'une norme avec des exigences minimales de service pourrait aider à restructurer ce marché ou en tout cas porter les téléassisteurs qui font bien leur travail? Donc, on a mis tout le monde autour de la table et c'est ce qui a été fait. Le but, c'est vraiment de répondre aux besoins du consommateur, mais également de permettre la structuration de ce marché émergent. La rédaction des recommandations qui vont sortir de ce groupe de réflexion vont aider à le faire. On voit d'abord qu'en normalisation, il n'y a rien dans le secteur de l'agroalimentaire. On voit bien qu'il y a des problèmes avec la texture. Je prends l'exemple du mochi. Le mochi au Japon, vous voyez, c'est ce petit gâteau du Nouvel An chinois qui a généré tellement de morts par étouffement qu'ils ont dû retravailler la texture pour qu'il y ait un mochi spécifique avec une texture beaucoup plus molle pour que les personnes âgées arrêtent de s'étouffer avec le fameux mochi traditionnel et qu'ils aient quand même leur gâteau traditionnel du Nouvel An. Voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, ça a été retravaillé. Donc des questions dans le domaine de l'agroalimentaire, il y en a beaucoup. Celle du packaging, celle, on le voyait, hein, de l'étiquetage, celle, ben voilà, je deviens diabétique, comment je sais que tel ou tel produit est adapté pour moi? C'est compliqué, c'est très compliqué de lire les étiquetages aujourd'hui, hein, en taux de sucre et autres, hein, c'est difficile. Toutes ces recommandations, là j'ai parlé de l'agroalimentaire, mais je peux aussi parler du transport. Permis de conduire en France, on l'a une fois, puis on l'a à vie. L'aide à la conduite, c'est quand même un progrès certain. Alors, tous les outils d'aide à la conduite qui se développent sont normalisés au niveau international. Hein, ils n'arrivent pas comme ça d'un seul coup. Donc, ils sont normalisés. Donc, aujourd'hui, lorsque la voiture, elle se gare toute seule, ben, c'est normalisé. Lorsque vous avez un régulateur de vitesse, c'est normalisé. Lorsqu'il y a une détection de danger et que la voiture s'arrête, c'est normalisé. Voilà. Et ces choses-là, ben, elles aident au jour le jour. Tout le monde, moi la première. Hein. Là, je donnais l'exemple des transports, mais parlons aussi des formations professionnelles. Il y a de plus en plus de nouveaux services. On voit que les services à la personne étaient très plébiscités, hein, par les âgés et par leurs aidants. Hein. Il ne faut pas oublier les aidants, quand même, hein, qui sont quand même les prescripteurs principaux. Bon, ben, très clairement, la formation de ces professionnels face à ces nouvelles demandes est un besoin réel qui a été souligné par les recommandations du groupe. Un dernier exemple, celui de la télémédecine, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que la présence des médecins dans les zones rurales sont de plus en plus faibles et qu'il faut bien trouver des palliatifs pour répondre à un besoin certain d'âgés, mais pas que, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va adresser de nouvelles solutions qui répondent à des problématiques rencontrées par des âgés qu'elles ne vont pas répondre à toutes les populations. Et ça, c'est la non-stigmatisation, quelque part. Hein. C'est trouvons des réponses, mais des réponses pour tous. Donc voilà les réflexions qui sont en cours par le groupe et qui seront délivrées d'ici mi-janvier. Les actions en cours au niveau européen et international, j'ai trouvé important de le souligner. Ce n'est pas parce qu'on a une problématique nationale qu'elle n'est pas vraie dans le reste du monde. Alors peut-être pas de la même manière, si ce n'est qu'on a quand même des dénominateurs communs. Ces dénominateurs communs, on les voit vite puisqu'il y a un groupe de réflexion au niveau européen sur la normalisation avec plusieurs pays autour de table qui se posent exactement les mêmes questions. La télémédecine, la téléconsultation, les services à domicile, la téléassistance, exactement les mêmes. J'y étais la semaine dernière. Si la France ne porte pas son savoir-faire, les autres pays européens le feront pour nous. S'ils le font pour nous, ils vont nous imposer leur manière de faire. Alors, heureusement, on a la possibilité de participer aux réflexions. Si c'est le cas, il va falloir se défendre. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est un point important. On n'est pas les seuls à réfléchir à la question. Et je vais aller encore plus loin. Je vous parlais tout à l'heure de la norme sur les services en téléassistance. Sachez qu'au niveau européen, il y a un comité technique en normalisation qui s'est monté sur les chaînes de services pour alarme de soins. Évidemment, la téléassistance est comprise. Il y a une norme nationale et un savoir-faire, on s'est tous mis d'accord. Vous êtes tous mis d'accord. Il faut vraiment en profiter pour porter ce consensus au niveau européen et donc votre savoir-faire avant que les autres pays vous l'imposent. Au niveau international, il y a des choses. Un accord international sur les services de santé et de soins développés pour répondre aux besoins des personnes âgées vient d'être lancé et accepté, il y a de cela une semaine, par les Royaumes-Unis. La France va y participer. On va tout faire pour y être. C'est un accord, c'est pas une norme, c'est moindre. Mais c'est une première marche. Et ce sont les Anglais. Et enfin, le groupe de travail franco-chinois, mais là, pour le coup, c'était une demande de la Chine de vraiment travailler sur un point particulier. Et là, ça nous arrange, c'est les résidences pour personnes âgées. On est très, 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 très en avance dans ce domaine, contrairement à la Chine, où la culture fait que les âgés restaient à domicile. Mais la culture change, les mentalités changent, même en Chine. Ils ont besoin d'un savoir-faire. Et ce savoir-faire, nous, on l'a. Eux ne l'ont pas encore. Même si ça concerne que 3% de la population, là-bas, ça se chiffre en milliards d'euros. Voilà, c'était voilà. Quelques pistes.
Eh bien, merci de ces pistes. Donc, maintenant, vous avez la parole. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui. Bon, je vais essayer de répondre aux deux questions, mais bien entendu, tout le monde pourra corriger mes réponses si vous les trouvez insatisfaisantes. Donc, la première question concerne, en fait, l'espérance de vie en bonne santé. Voilà. Alors, comme vous le savez, c'est une notion dont on obtient des résultats qu'en raison d'enquêtes périodiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi permanent permettant de répondre à cette question. Bon, l'ordre de grandeur que j'ai en mémoire, c'est à peu près 2 ans et demi de moins que l'espérance de vie totale. Mais bien sûr, il s'agit d'une moyenne, cela va de soi. Votre deuxième question portait sur donc à quel âge on entre en dépendance. Bon, la réponse qui peut être proposée, c'est celle que nous donnent les dirigeants d'EHPAD. Donc les dirigeants d'EHPAD nous disent l'entrée en EHPAD, l'âge moyen d'entrée en EHPAD a reculé ces dernières années. Donc il y a une époque où il était à 78 ans et maintenant ils nous disent plutôt 84 ans. Donc ça donne, si vous voulez, une idée de cette évolution aussi. Alors c'est à la fois lié à l'augmentation de l'espérance de vie et de l'espérance de vie à bonne santé, mais c'est lié peut-être aussi au fait que, il y a davantage d'aide à domicile, il y a peut-être plus de logements aménagés, etc. Donc, mais clairement, il y a cette augmentation qui est incontestable. Autre question, remarque, témoignage, monsieur ? Donc, je répète peut-être la question parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu, parce qu'on n'entend pas. Donc, monsieur demande le rôle de l'AFNOR pour diffuser une norme internationale. Voilà, pour que la France soit pilote d'une norme internationale. Voilà. Je vais laisser Valérie Bernard répondre à cette question.
Alors, le rôle de l'AFNOR au niveau international. Aujourd'hui, dans le domaine de la normalisation, il y a un seul organisme qui représente la France dans les débats de la normalisation au niveau international et européen, c'est l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Donc, quel que soit le sujet ou la commission de normalisation à laquelle vous participez, il y a une petite délégation qui est nommée par cette commission et AFNOR à ses côtés pour défendre le consensus français préalable qui aura été pris au sein de la commission française. Donc, c'est AFNOR qui représente les intérêts français. Vos intérêts, consensuellement adoptés.
Et peut-être que votre question voulait peut-être aller plus loin, c'est-à-dire comment fait-on pour... Ah non, on ne repousse pas sur les autres. Simplement, par contre, il y a effectivement une question de rapidité, c'est-à-dire dans les domaines où il n'y a pas encore de la silver economy, où il n'y a pas encore de normes françaises.
Alors, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, 95% des normes viennent de l'international. Voilà, pour répondre à la question. Il n'y a que 5% du portage de la France au niveau international de ses sujets, de son savoir-faire.
Oui, mais là, vous dites tout compris. Il n'y a pas seulement la silver economy.
Là, c'est tout compris. Hein.
Ah, c'est tout compris. Oui,
quels que soient les domaines.
Quels que soient les domaines.
Alors, heureusement, il y a des domaines où on est leader, hein, je vous rassure. Non, mais... Puis on se défend bien. Ce n'est pas parce que les normes arrivent de l'international, ou en tout cas qu'on nous propose de nouveaux sujets, qu'on n'y participe pas et qu'on ne défend pas nos intérêts. Mais par contre, ce n'est pas forcément nous qui les posons sur la table les premiers. Voilà.
Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'AFNOR ne peut se battre pour essayer d'imposer dans les 5% justement une norme au niveau international si elle n'a pas déjà une norme. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a bien une course contre la montre à qui, quel est le pays qui le premier va réussir premièrement à avoir des normes dans tous ces domaines, mais il faut déjà les avoir pour essayer de les imposer. Si on ne les a pas, on peut...
Si on ne les a pas, on réfléchit vite.
Voilà.
On réfléchit vite et on essaie quand même d'imposer nos exigences le plus rapidement possible. Après, on est pas mal placé. Hein. Au niveau européen, on est troisième. On est second, pardon. On est second au niveau européen et on est cinquième au niveau mondial en termes d'influence à l'Europe et à l'international. Donc, on est loin d'être
toujours
mal placé.
Ah,
par contre, la Chine monte très vite, la Corée également. Voilà, ce sont des pays qui montent, qui n'étaient pas classés dans les cinq premiers, mais qui montent vite.
Très bien. Madame. Oui. Oui. Donc je répète la question. Donc sur la question de l'adaptation des logements, est-ce qu'il existe un guide des normes ou un guide de recommandation?
Non, pas de guide de recommandation aujourd'hui. Certaines normes, oui, mais sur des éléments spécifiques. Mais pas de guide général sur le sujet, en tout cas en normalisation. C'est une recommandation qui est faite par le groupe, en tout cas. Alors, la question, en effet, c'est aujourd'hui autour des objets connectés. En France, il y a quand même l'ASIP Santé qui existe, qui demande à ce qu'il y ait une référence à leur référentiel rédigé par l'ASIP, hein, entre autres, hein, et que si les objets ne répondent pas à ces exigences, alors ils ne peuvent pas être mis sur le marché, ou en tout cas ne répondent pas à la protection des données personnelles, etc., recommandées par l'ASIP. Alors, le marché est mondial, les objets connectés, aujourd'hui, il y en a plein, et la question est excellente, puisqu'il existe un comité international qui traite du sujet, auquel la France ne participe plus depuis plus de 3 ans. Voilà, parce que nous avons une manière de faire en France qui était différente. La donne change. Au vu de l'émergence des objets connectés et de toutes les problématiques qui sont aujourd'hui traitées au niveau international dans ce comité technique, le ministère et tous les organismes qui aujourd'hui sont touchés par ces problématiques, objets connectés et autres, s'aperçoivent qu'il est extrêmement important de revenir dans ce comité technique. Les normes, elles existent au niveau international. Une norme internationale n'est pas forcément reprise au niveau français, contrairement à une norme européenne qui l'est automatiquement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous dire que 98%, 99% des acteurs du domaine ont voté positivement pour la réactivation de cette commission de normalisation, de sorte à participer aux débats internationaux en cours, entre autres sur les objets connectés, sur tout ce qui est protection des données personnelles et autres. Voilà. Ah oui, c'est oui, mais ce sont les acteurs qui décident, c'est pas l'AFNOR, hein. C'est les acteurs. Hein. Mais ils en sont conscients. Voilà. Donc ça va se faire, je pense, très rapidement.
Autre question ou remarque, monsieur, je vous en prie. Je répète la question. Donc, en fait, vous voulez surtout savoir si, notamment dans la tranche d'âge 55-64 ans, hein, ce sont plutôt des gens qui sont près de 64 ans ou plutôt des gens qui sont près de 55 ans. C'est ça, votre question?
Non.
Ah oui. Alors, est-ce que le dépouillement est assez fin pour répondre à la question?
Je ne l'ai pas en tête.
Voilà.
Je vous dirai une bêtise, je ne l'ai pas en tête.
Donc, il faudra regarder sur le site de l'AFNOR, sans vous promettre que...
Même pas, parce que, en fait, il faudrait qu'on aille plus loin dans le résultat, parce que c'est vrai qu'à la fin, on a catégorisé en fonction du sexe, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle, mais au final, on a un ordre de répondants en fonction de chacun des secteurs.
Oui.
Et ensuite, coup, on sait combien il y a de réponses par type de question, etc. Mais on n'a pas affiné la réponse jusqu'à il y a tant de répondants dans ces X pourcentages pour telle réponse de 55 ans ou de 75 ans. Donc, il faudrait surtout affiner, je pense, résultats de l'enquête.
Sauf que si on affinait trop, la loi des grands nombres risquerait de ne plus jouer et les résultats risqueraient d'être erratiques. Donc, c'est peut-être pas... pas souhaitable.
Mais on n'est pas arrivé jusque-là, donc je ne suis pas capable de répondre.
Madame. Oui, alors là, je suis assez sceptique sur ce que vous me dites, même extrêmement sceptique. Oui, mais enfin, l'INSEE, vous savez, je les connais par cœur, je les pratique très souvent. Il faut toujours regarder avec un sens critique tout ce que publient nos amis de l'INSEE. Donc, la question, c'était le nombre d'années d'espérance de vie en bonne santé. Et madame nous dit que le site de l'INSEE, mais je veux croire madame, mais je ne crois pas à l'information qui est donnée, que le site de l'INSEE met 62 ans. Alors là, ça me paraît tout à fait étonnant. Pour les femmes ou pour les hommes? Non, j'ai pas mes chiffres là, donc je peux pas vous en parler par cœur, bien entendu, mais je suis très très sceptique sur ce que vous nous expliquez là. Enfin, sur ce que l'INSEE annonce plutôt, pardon. Par contre, ce que vous disiez, c'est vrai, c'est-à-dire que l'écart d'espérance de vie en bonne santé des hommes, l'écart entre l'espérance de vie totale et l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes est plus faible que pour les femmes. Ça, c'est vrai. Autre question. Je regarderai votre page là tout à l'heure. Monsieur. Oui, c'est au gouvernement.
Les deux.
Oui, monsieur demande les relations avec la Chine, c'est avec quel type d'institution?
Voilà. C'est ça. Alors, à la différence de la France, où l'AFNOR est indépendante du ministère, en Chine, l'organisme de normalisation chinois fait partie du ministère central. Hein, complètement. C'est-à-dire que lorsque vous parlez avec avec l'organisme de normalisation chinois, en fait, vous parlez avec le ministère chinois et le ministère central. C'est pas n'importe quel ministère. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, si une norme française est reprise en état, et c'est un petit peu le but, au niveau de la Chine, résidence pour personnes âgées, par exemple, pour en sauter une au pif, ça voudrait dire que demain, c'est bien le ministère qui va porter la norme à l'identique. Et ça, dans toute la Chine, dans toutes ces régions. Voilà. Donc, voilà. On voit l'intérêt. Donc, en face, le ministère, mais évidemment, beaucoup d'institutions, de professionnels, d'universités. Alors, en Chine, derrière chaque université, il y a un professionnel. Voilà. Et en France, c'est beaucoup d'entreprises qui sont en face. Et le ministère. On est également en contact, fait partie du groupe de réflexion franco-chinois, l'ambassade de France en Chine et le club santé de Chine.
Autre question, remarque, critique?
Alors, la question, c'est est-ce que la norme fige le marché?
Ouais.
Enfin, je résume. Est-ce que la norme peut figer un marché? Alors, c'est extrêmement intéressant comme question. Plusieurs manières de voir. La première, j'ai une innovation. Exemple, biotechnologie, nanotechnologie. En France, on est extrêmement bien placé sur les biotechnologies, particulièrement sur les biobanques. Les centres de recherche biobanques sont extrêmement avancés par rapport au reste du monde. Il y a un comité technique au niveau international. On est en train d'imposer notre norme nationale dans le domaine des biobanques. Donc une innovation française, on est dans un secteur innovant quand même, hein, c'est de la biotech. Grâce à la norme, on est en train d'imposer nos exigences. Est-ce qu'on n'est pas en train de figer un marché au niveau international, ou en tout cas poser les exigences françaises au niveau international? Évidemment, c'est de la stratégie, évidemment qu'on le fait. Puis alors, vaut mieux que ce soit les nôtres, quitte à faire. On fait pareil pour les cosmétiques, hein. Je vous disais qu'on avait certains sujets leaders. Je prends un exemple que j'ai géré pendant 3 ans, il y a de cela quelques années, les cosmétiques, on est leaders mondiaux. En cosmétique, évidemment qu'on émet des normes pour essayer de bloquer des marchés, voire de permettre de développer de plus vite que les autres. C'est de la stratégie normative. Mais ça ne fait pas que ça. Ça porte des innovations aussi. Des innovations que vous ne connaissiez pas et qui arrivent à être harmonisées au niveau mondial ouvrent de nouveaux marchés. La feuille A4, c'est un exemple bête. Mais si la feuille A4 n'avait pas été normalisée, vous n'auriez pas eu l'imprimante et le scanner d'ailleurs. Donc ça dépend comment on se place. Et qu'est-ce qu'on pousse? Et mais évidemment qu'il y a des leaders, évidemment qu'ils essaient d'imposer. Après, là, c'est au rôle de la normalisation et ce rôle de l'organisme de normalisation d'écouter toutes les parties du secteur et d'avoir toutes les parties du secteur présentes autour de table. C'est ouvert, c'est complètement ouvert. Une commission de normalisation est ouverte à tous, mais vraiment. N'importe qui peut venir en commission de normalisation, participer au débat. Et on va encore plus loin. Une norme, avant qu'elle sorte, elle passe par une enquête publique, automatiquement avant d'être homologuée, pendant 3 mois. L'enquête publique, elle est ouverte à tous. Elle est sur le site internet d'AFNOR et elle est publique. C'est-à-dire que n'importe qui, même ceux qui n'ont pas pu participer au débat faute de temps parce que vous êtes une start-up, une PME et que vous n'avez pas forcément les effectifs, ben, peuvent avoir accès à la norme, au projet de norme et faire des commentaires. Et venir débattre de vos commentaires parce qu'ils sont importants et parce qu'ils ont un impact fort sur votre technologie à venir, au futur, ou ce que vous voulez, au sein de la commission, au cours du dépouillement de l'enquête publique. La normalisation, elle est ouverte à tous, elle est faite par vous et pour vous. Vraiment.
Très bien. Alors, y a-t-il une dernière question? Pas de questions rentrées? Écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce débat. Bon, bien entendu, vous avez les coordonnées de Valérie Bernal qui s'affichent ici. Donc, vous n'hésiterez pas à la déranger, sauf peut-être, il y aura quelques semaines où elle sera peut-être un peu plus occupée en 2015. Mais elle répondra quand même.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci.